Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Donc Regarde ailleurs, c'est vraiment cette envie d'élargir sa vision sur soi, sa vision sur le monde à travers des parcours de vie, des partages d'expériences. Et donc dans cette émission, je donne la parole à des voyageurs, des écrivains, des réalisateurs, des photographes ou tous ceux qui ont eu une expérience de voyageur ou d'expatrié dans un des pays du monde. Alors Clément, je te connais peu, donc auditeur, on va prendre le temps de rencontrer Clément ensemble dans cette émission. Juste en off, il y a quelques mots comme ça qui ont surgi, donc comme Mozambique, Liban, Tadjikistan, Kyrgyzstan, vélo, à pied, en stop. Voilà, donc j'ai compris que derrière les lunettes qui me regardent, un voyageur. Donc Clément va peut-être revenir un peu sur ton itinéraire personnel et savoir à quel moment tu as eu envie de voyager. Est-ce que c'est peut-être par ton parcours familial ou est-ce que c'est toi qui as eu envie de mettre un pied là-dedans? Enfin voilà, raconte-nous, reviens un peu sur ton histoire personnelle.
Ok. Ben, je suis pas sûr que ce soit le parcours familial parce que mes parents sont plutôt. Enfin, ma mère est issue de la campagne, mon père de Paris, mais ils ont assez peu voyagé dans leur vie. Après, moi, j'ai passé mon enfance en Deux-Sèvres, donc vraiment la ruralité profonde. Donc, c'est pas forcément ça directement, mais après, quand on réfléchit, ma mère était gérante de camping. Et donc finalement, moi j'ai habité sur un camping pendant mon enfance, jusqu'à mes études, et je pense que ça c'est peut-être des déclics, parce que j'ai eu l'occasion de croiser plein de gens, d'avril à novembre, il y avait toujours du monde, alors pas directement chez moi, mais vu qu'on habitait au-dessus du bar, c'était forcément très lié. Et donc je pense que là j'ai quand même pris goût au voyage, après c'était surtout des Européens, mais en tout cas ça a peut-être créé une étincelle. Et puis, donc, ouais, peut-être ça, enfin, je pense que ça, c'est assez important. Voilà, et après, au moment des études, j'ai un peu quitté le cocon familial avec plutôt plaisir. J'avais envie, en tout cas, de découvrir autre chose. Et en fait, pendant ces études-là, j'ai eu la chance, avec Erasmus, avec d'autres programmes, de partir voyager, entre guillemets, sans risque, en tout cas sans risque financier, parce que j'avais des bourses et des aides de l'Europe, sans risque parce que c'était en partenariat avec des facs sur place. Donc finalement, t'as un peu d'aventure, mais t'as quand même un confort que tu connais. Surtout que je suis parti un an aux Pays-Bas et un an au Québec. Donc bon, voilà, c'est toujours des découvertes culturelles, mais tu te repères, quoi. Ça reste l'Occident de manière générale. Voilà, t'apprends une langue, peut-être deux, et... Mais bon, les étudiants, je crois que rien ne ressemble plus à un étudiant européen d'un autre étudiant européen.
Le programme Erasmus, on en a tous plus ou moins entendu parler avec des films. On dit que c'est un programme réservé aux étudiants. Moi, je veux bien que tu reviennes un petit peu sur Erasmus. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que toi, ça t'a apporté?
Donc Erasmus, c'est un programme européen qui vise à favoriser la mobilité des étudiants européens, même si finalement, c'est un peu plus large que ça. Et donc via un système de partenariat entre les facs et via un système d'aide financière pour les étudiants, dont une partie est liée au revenu et une partie est, on va dire, forfaitaire. Ça permet aussi pour ceux qui souhaitent étudier par exemple en Angleterre ou quoi sur un an d'avoir des frais liés à la fac française et pas des frais de scolarité d'un étranger en Angleterre par exemple, quoi. Enfin, y a pas mal d'intérêts qui favorise l'idée, c'est vraiment de favoriser la mobilité des Européens. Et donc ça, c'est un programme, moi, qui m'est un peu tombé dessus, pas par hasard, mais en deuxième année d'IUT, mon IUT, la fac de La Rochelle, avait la possibilité avait plusieurs destinations possibles. Donc un peu par hasard et avec un ami, on a décidé d'aller aux Pays-Bas. Pas trop loin, mais quand même un peu loin, un peu différent. Voilà, ça nous tentait bien. Et donc, on a débarqué aux Pays-Bas avec nos affaires. On est monté en voiture, on savait pas où loger. Parce que notre fac avait des partenariats, mais pas, ça allait pas jusqu'à logement étudiant, etc. Ce que d'autres avaient. Donc nous, ça a été un peu la débrouille. On a fait du camping, comme au camping de Zertogenbosch. On a commencé à découvrir. On a fait de l'Ibis Hotel à trois dans une chambre. Enfin voilà, c'était la découverte, le temps de trouver un logement, ce qui n'est pas si facile. Hein, c'est un peu comme maintenant, finalement, on n'avait pas le profil le plus séduisant. Donc pour trouver un logement, en plus on cherchait meublé. Enfin voilà, ça nous a pris 2 ou 3 semaines. On était au camping les premiers jours de fac, quoi. Mais bon, c'était chouette. Et du coup, finalement, on a trouvé un appartement. Puis les cours ont commencé. Qu'est-ce que ça m'a apporté
Le fait d'aller étudier à l'étranger, hein, c'est ça, c'est vraiment de s'inscrire dans un programme européen, international, Erasmus. Donc j'imagine c'est un choix, hein. Tu avais peut-être cette envie de t'ouvrir sur le monde à travers, j'en sais rien, la découverte d'une langue ou d'une culture. Donc voilà, qu'est-ce que tu remettrais aujourd'hui, d'années plus tard à Erasmus? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu conseillerais cette expérience à celui qui est peut-être aussi dans un cursus universitaire ou scolaire et qui se pose la question de suivre un tel programme?
Je pense qu'il y a plusieurs volets. Ça dépend un peu de la motivation. Je trouve que sur le volet culturel, j'émettrais des doutes ou en tout cas des limites. Sur le volet intellectuel ou intérêt pour la scolarité, je pense que c'est vraiment bien. Moi, je parlais pas très bien anglais. Là, tous les cours étaient en anglais. Les échanges avec les Néerlandais se faisaient en anglais. J'ai aussi appris quelques bases de néerlandais. Enfin, pour ça, c'est vraiment hyper intéressant aussi de voir comment les cours peuvent se faire, comment l'éducation peut se faire ailleurs. Je trouve dans un système français où vraiment on nous pousse à la passivité, un peu au jugement. Là-bas, voilà, c'est très fluide. On tutoie les professeurs. Il y a peu de cours. Par contre, les professeurs sont disponibles dans leur bureau. Donc, c'est un peu à l'élève, à l'étudiant de se mettre un peu en branle pour poser des questions, pour être proactif dans sa scolarité. Et donc, je trouve que ça fait du bien parce que pour moi qui étais un peu, on va dire, flemmard, c'est un peu fort, mais en tout cas, qui vivait sur ses acquis, bon, là, ça pousse à un peu se remettre en question. Donc, pour ça, moi, ça m'a apporté quand même beaucoup. Ça m'a rendu un petit peu plus acteur de ma scolarité, de mes études. Ça m'a permis d'acquérir un niveau d'anglais. Nécessaire pour la suite, enfin en tout cas qui m'a apporté beaucoup après, et un premier goût à la culture, après, enfin à la découverte d'autres cultures. Après, je trouve que ça reste, en fait, il y a ma connaissance de la culture néerlandaise déjà est très faible parce qu'on se retrouve dans un bain d'étudiants européens. Que naturellement, les Néerlandais, ils ont leur groupe d'amis, donc l'intégration se fait peut-être pas si naturellement. Ou en tout cas, il faut vraiment faire des efforts pour aller dans une association, un club local, sortir un peu de cette vie estudiantine Erasmus, parce que finalement, après, on croise que des étudiants espagnols, italiens, allemands, je ne sais pas, d'un peu partout, mais voilà, et qui ont quand même des profils similaires aux nôtres. Études supérieures, classe moyenne, globalement des citadins. Du coup, je trouve que on a l'impression de découvrir plein de choses, mais on reste quand même vraiment dans son bain culturel, quoi. Donc c'est plus là-dessus. Mais bon, peut-être que si je peux me permettre d'avoir ce commentaire-là, c'est ça a été une première étape moi, et ensuite j'ai découvert autre chose où je me suis dit, ah ouais, en fait, Erasmus, c'est intéressant, mais la découverte culturelle, elle est plus limitée que ce qu'on pense.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc tu finis ton cursus universitaire et après, parce qu'on parlait au début de cette émission de Mozambique et bien d'autres destinations, donc comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu cette envie de t'expatrier, de travailler à l'international? Parle-nous un peu de la suite de ton parcours.
En fait, après mes études, donc j'ai fini mon master 2 au Canada et je suis rentré en France. L'hiver canadien, c'était un peu trop dur pour moi. J'ai trouvé du travail à Strasbourg. Donc, je suis resté 4 ans. Et donc, pour moi, c'était aussi une découverte culturelle parce que venant du Grand Ouest, l'Alsace, c'était pas très naturel. Rien que de m'habituer au nom à prononcer, le nom des villes, etc. Mais bref, au bout de 4 ans, bah, j'avais fait mon expérience un peu pro et puis j'avais vraiment des envies de voyage de nouveau. Et en fait, même avant ça, donc d'abord, je suis parti 4 mois en Asie centrale. J'ai eu la chance d'avoir un congé sabbatique, de pouvoir me partir 4 mois. Sans arrêter mon travail. Du coup, j'ai décidé, là pour le coup, je me suis dit, je veux vraiment être perdu, quoi. Vraiment perdu. Donc, je suis parti juste avec mon sac à dos, mes chaussures de rando. Et j'ai pris un avion direction Bishkek, Kyrgyzstan. Avec pour objectif de faire un tour de l'Asie centrale. En sachant peut-être aussi ce qui m'a un peu structuré, c'est qu'en Alsace, j'ai découvert un peu la rando, la montagne, les cartes. Me repérer avec le GPS. Et je pense que ça aussi, finalement, ça m'a donné des clés pour me dire, en fait, je peux le faire. Je peux vraiment partir sans beaucoup de préparation. Enfin, en étant préparé, mais finalement, je dispose des compétences pour faire ça partout, pas que dans les Vosges ou en forêt noire, quoi.
Parce que l'Asie centrale, tu parles de Bishkek, donc au Kyrgyzstan, t'as le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, enfin c'est que des stans, c'est tous les pays des stans, hein, c'est ça. Quand on parle d'Asie centrale, est-ce que tu peux un petit peu géographiquement le positionner? Quel a été ton itinéraire dans tous ces stans?
Alors effectivement, donc l'Asie centrale, il faudrait demander à quelqu'un spécialiste, mais globalement c'est le Kazakhstan qui est la partie nord, c'est le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Et c'est bordé au nord par la Russie, au sud par l'Iran, à l'ouest par la mer Caspienne et à l'est par la Chine. Donc c'est une zone particulière quand même parce que c'est au confluent de pas mal d'influences. Il y a l'influence perse qui vient de l'Iran, par exemple les Tadjiks, c'est un dialecte perse. Il y a l'influence chinoise qui vient de la Chine. Il y a l'influence mongole parce que c'est beaucoup de peuples mongols turcophones. C'est vrai qu'il y a aussi la Turquie qui est pas si loin. Et ça a fait partie de l'URSS, ça a été des républiques socialistes. Enfin, d'abord de l'Empire tsariste et ensuite de l'URSS. Donc, tout est écrit en alphabet cyrillique. Il y a vraiment comme ça ces multitudes d'influences. Et c'est vrai que ça me plaisait bien parce qu'au début, je pensais aller en Russie. Donc voilà un peu le contexte dans lequel j'ai essayé de m'immerger. Donc l'idée, j'avais pas prévu grand chose.
Cette envie de te perdre, tu disais, hein, c'est important pour toi de te retrouver dans un endroit où tu n'as pas forcément les codes et vraiment envie de te retrouver à nu.
Bah oui, complètement, me perdre culturellement, donc me perdre linguistiquement. J'avais pris 2-3 heures de russe pour essayer quand même de au moins lire l'alphabet. Dans une région dont je savais pas grand chose et je me suis peu préparé, j'ai juste pris un sac à dos et le sac à dos là j'ai quand même là ma préparation ça a été d'avoir à peu près tout pour survivre entre guillemets quoi le pas mais voilà et même j'ai pris trop parce qu'au final dès les 4 premiers jours j'ai viré un paquet de bouquins et de trucs trop lourds pour mes épaules. Mais oui, l'idée c'était vraiment de se perdre. Ouais.
Et donc l'itinéraire, tu arrives à Bishkek au Kyrgyzstan?
Ouais. Je passe un mois au Kyrgyzstan, donc d'abord je découvre un peu les zones les plus touristiques, le lac ici coule. C'est pas mal parce que ça me permet, le Kyrgyzstan je pense que de tous ces pays c'est le plus touristique. Il y a 8 ans c'était moins connu que maintenant, mais voilà, il y avait quand même ce tourisme un peu avec les nomades, les yourtes, les chevaux, enfin c'était pas complètement inconnu et donc pour moi c'est pas mal, ça m'a permis de m'acclimater un petit peu, d'améliorer un peu mon russe, balbutiant. Et puis donc je suis allé faire des randonnées dans des zones peu de touristes, mais quand même, j'ai croisé un Américain, un Canadien. J'étais pas complètement seul, et en plus, y avait des bus. J'ai fait pas mal de stops aussi, mais c'est relativement dense cette partie nord du Kyrgyzstan, donc c'était un peu la partie un peu facile, mais qui m'a permis une transition vers ce que je cherchais, c'est-à-dire d'être un peu perdu, quoi. Et puis, du coup, trier mon matériel, par exemple, hein, après 3 jours de rando à 4000 mètres, on fait des choix. Parce que ce que j'ai pas dit dans le contexte un peu, c'est que c'est une région plate au niveau du Kazakhstan, assez aride au niveau de l'Ouzbékistan, Turkménistan, et montagneuse, mais très montagneuse. Hein, ça monte au Tadjikistan, je crois que ça monte à 6500. C'est la fin de l'Himalaya. Donc, Tadjikistan, Kyrgyzstan, c'est vraiment très montagneux. C'est aussi pour ça que je suis allé là-bas, c'est que je voulais randonner sans faire d'alpinisme, mais au moins randonner, quoi. Donc, on est très vite, en fait, à 3000 voire 4000 mètres d'altitude, quoi.
Donc tu disais, là où tu as réellement senti la différence, où tu t'es senti plus perdu, c'était le Tadjikistan, où le Kyrgyzstan voilà. avait quand même une orientation plus touristique, le Tadjik beaucoup moins.
Oui, alors voilà, une fois que j'ai fait le nord du Kyrgyzstan, ça m'a permis aussi de faire mes visas, parce que au moins on commence aussi à se rendre compte que les visas faciles d'accès partout pour les Européens, c'est un peu moins le cas dans ces régions, même si on est quand même privilégié. Il faut faire des demandes, il y a 8 jours d'attente, il y a une demi-journée d'attente devant l'ambassade, enfin bref. Et du coup, j'en ai profité pour faire ça, et après je suis parti sud-Kyrgyzstan pour rejoindre en fait le Tadjikistan via les Pamir, qui est une route pas très connue, mais un petit peu connue pour ceux qui aiment faire du vélo, qu'on fait des tours du monde, parce que il y a quand même quelques vélos qui passent là. Moi, cette partie-là, j'ai tout fait en stop. Et c'est assez incroyable. Donc les Pamir, donc le Tadjikistan, c'est un plateau à 4000 mètres d'altitude. Donc c'est plat, mais c'est entouré de montagnes qui montent jusqu'à 6500 mètres. Donc c'est quand même extrêmement montagneux, très aride, parce qu'à 4000 mètres, il n'y a quand même pas grand-chose qui pousse.
Et habité ?
Assez peu habité. En fait, une fois qu'on quitte le sud du Kyrgyzstan jusqu'à... Il y a une ville au milieu des Pamirs, le nom m'échappe. Là, il n'y a rien, quoi. Donc, c'est plusieurs centaines de kilomètres avec rien, un poste frontière. Et donc là, en stop, j'ai un peu serré les fesses, pour être honnête. J'ai été pris par deux touristes américains. Donc, il y a quand même des touristes qui étaient en 4x4 et qui m'ont permis de traverser la frontière. Parce qu'en fait, oui, peut-être un truc un peu rigolo en anecdote. Donc, j'ai été pris en stop jusqu'à 10 kilomètres de la frontière. Et là, il y a un garde frontière qui m'a pris en stop jusqu'à la frontière kirghize. Mais entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, il y a un no man's land de 20 km dans la montagne. Du coup, j'ai entrepris de le faire à pied sur une journée de marche, quoi. Enfin, il était déjà 14-15 heures et il neigeait, hein. Donc, c'était quand même assez audacieux, on va dire. Et par chance, quand même, parce que je pense que j'aurais pas passé une très bonne nuit, par chance, il y a deux touristes américains qui avaient de la place dans leur 4x4 après, je sais pas, une ou deux, peut-être 2 heures de marche. Et qui m'ont emmené jusqu'où, à la partie tadjik de la frontière. Et ils m'ont déposé dans le premier village, mais qui est un village un peu fantôme, juste après la frontière. Et donc à partir de bas, là, j'ai réussi quand même à trouver en stop jusqu'à cette seule ville des Pamirs. Et après, il y a encore plusieurs centaines de kilomètres avant de rentrer dans les vallées qui redescendent vers la capitale d'Ouchambé et qui font la frontière avec l'Afghanistan. Et donc là, ça redevient un petit peu plus habité, avec plus de végétation. Mais là encore, une anecdote marrante. Par exemple, quand j'ai quitté cette ville au centre des Pamirs pour rejoindre un peu cette vallée, j'ai été pris en stop par un chinois taxi. Qui avait déjà sa voiture pleine, et pleine de chez pleine. Et il s'est arrêté et il m'a mis sur le... J'ai mis une fesse sur le frein à main et une fesse sur mon voisin qui était qui était à la place du passager avant, quoi. Voilà. Et donc, comme quoi, et quand il n'y a plus de place, il y a toujours de la place. Ça m'a un peu rappelé quand j'étais au Togo à un autre moment, quoi. Et on trouve toujours de la place quand on veut. Donc, super. Encore une fois, c'était super. Et enfin... un peu étonnant, quoi. J'ai fait beaucoup de stops en Europe, il n'y a jamais personne qui m'a mis sur son frein à main. Et même souvent, c'est plutôt j'ai plein de place, mais j'ai pas envie de te prendre, quoi. Donc ouais, changement de vision, quoi. Vraiment, content d'accueillir la nouveauté dans ces pays, en tout cas.
Comment t'expliques ça, cette notion de l'accueil? Comment t'expliques que tu te retrouves sur un frein à main, qu'on t'ouvre la porte, alors que c'est inconfortable pour toi, et ça peut être aussi inconfortable pour l'ensemble des passagers dans la voiture, alors que nous, en France, comme tu le dis très justement, on reste des fois au bord des routes pendant plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, alors que plein de voitures vides passent à côté de nous.
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors, peut-être globalement, vu que tu vis dans moins de confort, tu as un besoin de solidarité qui est quotidien. Et donc, du coup, ça te paraît plus naturel d'aider quelqu'un. Je pense qu'il y a quand même ça. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'en Europe, on vit dans un confort matériel évident. Et du coup, on peut se permettre d'être individualiste. Ce qui, dans des pays comme le Tadjikistan, c'est pas possible, quoi. Enfin, et donc, ça, c'est un fait. Après, je pense qu'il y a aussi... c'est des pays où l'accueil est extrêmement important. Et c'est des pays musulmans, dans le monde musulman, on se doit d'accueillir l'étranger. Du coup, je pense qu'il y a aussi culturellement le souhait d'accueillir l'étranger. Et après, il ne faut pas non plus se leurrer, si j'étais noir, peut-être j'aurais pas eu le même accueil. En tout cas, en tant qu'Européen, et ça, j'ai vécu ça aussi en Iran et aussi au Liban. En tant qu'Européen, on fait partie des, entre guillemets, des gagnants. Donc, les gens ont plus intérêt à, enfin, plus intérêt, ont plus envie de discuter avec nous. Donc, il y a aussi ça, quoi. Hein, c'est pas non plus que naturel. Ouais, voilà, je dirais que ça joue. Après,
mais c'est intéressant, donc ça voudrait dire que l'opulence matérielle et le matérialisme nous individualisent de plus en plus et nous éloignent de cette forme de solidarité qu'on retrouve dans certains pays où il n'y a pas cette opulence.
Ah, moi, je pense effectivement qu'il y a vraiment ça. Et d'ailleurs, on le voit avec... je trouve qu'il y a pas mal d'initiatives depuis 5-6 ans en France autour de recréer du lien, recréer de la solidarité. Et comme par hasard, ça arrive à un moment où, pour les classes populaires et les classes moyennes, les choses se tendent, sont plus difficiles financièrement, la montée de le chauffage, etc. Et c'est pas un hasard, je pense. Et j'espère qu'on va revenir vers des modes de solidarité, malheureusement parce qu'on va en avoir besoin, mais je pense que c'est très lié quand même, oui.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et juste peut-être, du coup, le Tadjikistan, j'ai été déposé quelque part au Tadjikistan par cette personne-là, et je suis par mon choix, encore dans cette volonté d'être encore plus perdu, je suis parti 4 jours, c'était pas le départ d'une rando, j'avais juste vu sur une carte qu'il y avait un chemin. Et enfin, faut s'imaginer que c'est vraiment, y a rien, quoi. Hein. Et donc, je suis parti pour rejoindre le bout de vallée à pied, à 70 km de là, quoi. Et donc, j'ai fait cette marche, je me suis fait attaquer par un âne. Ça paraît dingue, mais il m'a quand même mis des coups de sabot. Je vous dis pas, quand même, perdu dans les Pamirs, je pense que ça aurait pu vraiment mal tourner. Mais il devait être affamé, j'avais de la nourriture dans mon sac, et il a d'abord essayé de manger mon sac, et après, il a rué plusieurs fois. J'ai mis mon sac en opposition pour pas qu'il me touche moi. Et finalement, en lui lançant des cailloux, des bouts de pain, après 1h30 où je l'éloignais, il a fini par me lâcher la grappe. Mais au début, en fait, j'étais là, oh, un âne, trop rigolo. Et quand j'ai vu qu'il était plutôt agressif, et même voire après très agressif, c'était assez effrayant, en fait. Ça paraît bête de se faire attaquer par un âne, mais quand on est au milieu de rien, un coup de sabot sur la tête, ça peut mal tourner.
Qu'est-ce qui fait qu'on se mette dans des contextes aussi particuliers que celui-là ? Donc tu me parles des plateaux du Pamir, on est à 2-3 000 mètres d'altitude, dans un milieu très minéral, seul, avec ton sac à dos, à vouloir traverser des endroits qui ne sont pas vraiment des chemins de randonnée. Pourquoi chercher la difficulté ?
Je sais pas, je pense que j'avais vraiment besoin de moi me retrouver un peu, de quitter quitter la facilité peut-être. Et puis justement, de nouer des liens avec des gens que tu reverras jamais, mais parce que tu en as besoin. C'est vrai que le téléphone, c'était un peu... j'avais un téléphone, mais l'information était moins accessible que maintenant. Du coup, tu as besoin d'aller au contact, tu as besoin de réfléchir où tu vas, comment tu vas y aller, essayer de comprendre comment ça marche. Et du coup, je crois que à la fois le côté d'être un peu seul, donc un peu dans l'introspection, et le côté... devoir aller vers les autres ou devoir intellectuellement être en recherche permanente, c'était hyper excitant, quoi. Et c'est vrai que ça est arrivé après 4 ans où j'étais dans un train-train avec ma copine aussi, enfin, qui est ma compagne actuelle encore. Hein, donc, mais je crois que ça m'a fait du bien aussi d'être 3 mois et demi vraiment dans un délire, quoi, à moi, en fait.
Quand on parle de différents voyageurs, souvent l'Iran est un des pays les plus marquants en termes d'accueil et d'hospitalité. Est-ce que tu partages ça ?
Complètement. Je pense qu'il y a 2 pays qui m'ont marqué, et pourtant les 2 pays qui m'ont le plus marqué, c'est le Tadjikistan et l'Iran en hospitalité. C'est donc dans les 2 cas le monde perse. Et c'est vrai que ça, ouais, la discussion est très facile. Les gens vont pas hésiter à t'inviter chez eux, à dormir chez eux, à manger avec eux. c'est vraiment, ou à discuter juste sur le bord des routes. Alors nous, on pensait faire du vélo, mais finalement, par jour, on faisait 30 km. On se faisait inviter tout le temps. Dans le sud, c'est le pays de la datte, mais on avait 5 ou 6 kilos de datte sur les vélos. C'était vraiment incroyable, quoi. Et c'est vrai, et en plus, l'avantage, c'est qu'il y a une classe moyenne assez éduquée en Iran. Donc les gens parlent quand même anglais, parfois français. Au Tadjikistan, c'était une ancienne république socialiste, donc ils parlaient pas mal allemand aussi. Russe et un peu allemand, mais du coup ça permettait quand même de discuter aussi, ce qui est plus difficile dans d'autres pays, je sais pas, Kyrgyzstan ou Ouzbékistan, c'était quand même plus compliqué, quoi. Là en Iran, la discussion pouvait se faire, quoi. Et puis les gens ont tellement envie de discuter que finalement t'arrives à te comprendre. Donc ouais, l'accueil, c'est, après au Liban, je venais du Liban, hein, donc le Liban au niveau accueil, c'est déjà un niveau très très élevé, je pense le monde arabe d'une manière générale. Mais l'Iran, ouais, c'est... Même le stop, hein, on attendait 5 minutes, je pense. Pourtant, on avait 3 vélos, hein. Mais pick-up, tout est possible, quoi. On les met dans la soute. Le mec du bus, normalement, il n'a pas le droit de prendre le vélo, hein. Et bon, tu discutes un peu, oh, bah, on va trouver une solution. On démonte les deux roues, fais attention aux dérailleurs. Et en avant, on part pour 12 heures de bus, quoi. Et c'est vrai qu'on a été pris en stop par des camions, des pick-up, des gens qui n'avaient pas la place pour les vélos, mais du coup, qui nous aidaient à arrêter d'autres voitures qui aurait potentiellement la place. Ouais, c'est, et même quand on va dans des, par exemple dans les villes, on était dans des espèces de bed and breakfast ou des choses comme ça, des petits gîtes, quoi. Et là, l'accueil, c'est, enfin, ils sont pas juste là pour te louer une chambre, quoi. Ils vont prendre le thé avec toi. Ils vont... Ouais, il y a un, l'accueil, c'est quelque chose d'incroyable en Iran. Et c'est vrai que ça va, enfin. On imagine les je sais pas, les mollahs ou un extrémisme religieux en Iran, et c'est sûrement une facette qui existe, mais quand on va là-bas, bah non, il y a un accueil qui est incroyable, il y a un patrimoine architectural qui est fou, c'est une civilisation qui a quand même plusieurs millénaires, et je trouve que sur pas mal d'aspects ça sent, quoi. Et j'ai trouvé, peut-être par rapport au Liban, qui finalement qui est très influencé par l'Occident, sur plein de choses, j'ai trouvé qu'en Iran, il y avait une proximité culturelle peut-être plus forte. Sur le sport, les randonnées, le vélo, des réactions, en fait, je me suis vraiment... J'ai senti une proximité de valeurs et de culture plus forte en Iran qu'au Liban. Après, c'est aussi à prendre des pincettes, j'ai fait un mois de voyage en Iran, j'ai habité 2 ans au Liban. Donc voilà, j'ai un esprit peut-être moins critique de l'Iran que du Liban. Mais, ah ouais, c'est un voyage à faire. Enfin, franchement, c'est le voyage, je pense, ou un des deux voyages qui m'a le plus marqué, quoi.
Et pour terminer cette émission, qu'est-ce qui fait que tu choisisses aujourd'hui de vivre en France ? Parce que force de cette expérience de l'expatriation, tu aurais peut-être pu te poser la question de vivre à l'étranger.
Bah, c'est peut-être la limite de mon intégration ou un esprit critique qui est peut-être un peu trop acerbe. Comme j'ai dit pour le Mozambique, certaines critiques. Au Liban, j'avais aussi un peu des difficultés avec des cultures, des habitudes qui sont pas les mêmes. Et finalement, bah, riche de toutes ces expériences, et bah, j'ai peut-être compris aussi pourquoi j'étais bien en France. Enfin, pourquoi, ou je serais bien, mais j'étais déjà bien avant. Hein. Et pourquoi l'Alsace me plaît, pourquoi... qu'est-ce que j'avais envie un peu d'autre chose, quoi. Mais justement, suite à ces expériences, j'ai compris aussi la limite de l'expatriation pour moi, hein, pour mon profil, mes envies. Et donc, en fait, assez naturellement, j'avais envie de rentrer. Bah ouais, je sais pourquoi on est bien en France. Après, voilà, il y a de l'individualisme, il y a peut-être un manque, je trouve, des fois d'ouverture sur l'autre, des peurs comme ça qui me paraissent pas très factuelles, beaucoup de ressentis un peu négatifs. Mais à côté de ça, on vit dans un état qui partage plus que d'autres états, en tout cas les classes. Malheureusement pas assez à mon goût, mais quand même, on a un état social, on a une organisation, on a des infrastructures, on a accès à un confort qui est quand même extrêmement agréable à vivre. Et il y a plein de choses à découvrir ici aussi, il y a plein de gens super intéressants. Du coup... ça me paraissait assez naturel de rentrer. Et puis maintenant, j'ai 2 enfants. Enfin, voilà, quoi. Maintenant, il y a d'autres enjeux, d'autres envies que uniquement le voyage. Mais on part en Allemagne. En une demi-heure, je suis en Allemagne. En une demi-heure, en 45 minutes en Suisse. 5 heures, je suis plus vite à Prague que dans ma famille. enfin, on est dans une région où si on aime un peu voyager et découvrir l'autre, on a quand même pléthore d'opportunités, quoi.
Clément, merci. Merci à toi.
Ben, merci beaucoup de m'avoir écouté.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.